L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 260e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, comme une semaine sur deux, toutes les semaines paires, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
C'est donc l'actualité des deux semaines écoulées et comme de coutume, nous allons commencer par les actualités internet et vie privée. Oui. On va parler d'X. Non pas
de Twitter.
De Twitter, non pas de... Alors, si, en fait, mais bon, celle qui est franchement illégale, donc la pédopornographie, et Elon Musk qui s'est donc fait taper sur les doigts à cause de son jouet. Le jouet qu'il a cassé, puisque, souvenez-vous, quand il avait racheté Twitter, il avait fait un grand ménage avec grand fracas.
C'est ça, oui.
Licenciant notamment 90% de l'équipe de modération. Et ce qui devait arriver. Alors, on avait peur, donc, du coup, des retours des trolls politiques, quoi qu'ils ne sont jamais partis, mais une recrudescence des trolls politiques, des propos haineux. Et c'est même encore pire, donc, c'est la recrudescence de contenu pédopornographique.
Et outre la recrudescence de ce contenu-là, c'est aussi la baisse de sa détection. Et de son blocage. C'est... Là-dessus, on attend de Twitter. Alors, on n'attend pas à ce point-là une obligation de résultat, c'est-à-dire on s'attend pas à ce que l'équipe de Twitter soit capable de bloquer avant même que le contenu n'apparaisse. On s'attend à ce que l'équipe soit capable de retirer le contenu dans des délais stricts une fois que le contenu a été détecté.
Ouais. D'autant plus que, alors si je vais faire une surveillance, c'est-à-dire a priori avec des détections d'images, alors que Twitter est quand même très tolérant sur le contenu, c'est-à-dire pornographique légal.
Oui, ils sont relativement des gens connus ont, pour voilà, ça.
Hein. Vous faites une recherche sur Twitter qui n'a rien à voir. Vous tapez le nom d'une ville et Alors moi, je les bloque à la fin, mais bon, toujours. Au moins, ça évite qu'ils polluent mes recherches, mais c'est assez pénible, quoi.
Et donc, suite à ces petites erreurs. Minime. Donc X a été condamné le 16 octobre à 610 500 dollars canadiens d'amende, soit 360 000 euros donc pour non-gestion des contenus pédopornographiques sur la plateforme. Pampan.
Et Elon Musk qui se fait également taper sur les doigts par Thierry Breton, commissaire européen.
Exactement, parce que donc Thierry Breton a fait une lettre destinée à
Twitter, Elon Musk, il y avait TikTok et YouTube également qui étaient concernés.
Tout à fait. Et donc, ils rappellent qu'ils ont des indications comme quoi les plateformes sont utilisées pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l'Union européenne. C'est-à-dire que... Alors, le réseau social Twitter donc, a été menacé de sanctions. Donc, ils ont l'obligation de rendre des comptes sur, notamment, la circulation de fausses informations et d'images violentes liées au conflit en Israël. Oui, parce que... Il n'y a pas que du conflit il n'y a pas que des victimes locales, il y a aussi tout un conflit qui a lieu sur Internet à base de désinformation et d'images violentes diffusées, évidemment. Parce que il suffit pas de faire une boucherie locale, il faut aussi l'en faire profiter tout le monde.
Alors, il y a quand même une certaine subtilité, c'est-à-dire qu'il y a besoin également d'être informé.
Tout à fait.
Voir, voilà ce qui se passe, la réalité des choses qui est bon, horrible, hein.
Ah oui,
c'est
le boucherie.
Mais voilà, une certaine limite entre voilà, l'information, savoir quels sont les faits et jusqu'à quel niveau d'horreur vont les faits, et la protection du public et ne pas, pas choquer les publics sensibles. Et même moins sensibles, enfin, pas que ça devienne, je dirais, de l'exhibition d'horreur.
Et petit complément concernant la désinformation, Elon Musk a incité notamment tous ses followers, donc ses 160 millions de followers sur Twitter, à s'informer sur le conflit entre Israël et le Hamas en suivant deux comptes spécifiques qui sont pourtant connus comme étant des comptes de désinformation.
Oui, en plus c'est Elon Musk qui, alors si vous avez un compte relativement récent, aime bien s'inviter dans les tweets recommandés.
Oui. Voilà. Donc, c'est bravo Elon. C'est donc en fait, il y a eu des rumeurs. Je l'ai pas. Je l'avais. C'est vrai, j'aurais pu la mettre dans les actualités, si j'y ai pas pensé. Il y a eu des rumeurs comme quoi, oui, Twitter pourrait se retirer du marché européen. Mais chiche, faites-le partir, s'il vous plaît.
C'est Facebook qui avait aussi menacé. Mais ça devient régulier. Alors Facebook, je crois que c'était avec le Canada.
Oui, alors Facebook, c'est avec le Canada,
Donc
mais
il y a
Facebook,
quelques émissions.
ils ont d'autres litiges avec le Canada en cours, hein, où ils ont été bien vénères. Ils ont pas cédé pour le coup face au Canada, ils ont été vraiment bien, bien sales. On en a parlé il y a 2 semaines.
On va passer en France, on était à l'Europe, maintenant on change d'échelle et bon, vous savez qu'il y a eu quelques.
Oh.
Voilà. Ah oui,
Oh.
mais le ministre de l'Intérieur, suite aux événements récents, parce que bah, ça permet de les justifier, hein, demander voilà, une bague d'or, une
Porte
porte
dérobée.
dérobée, parlons bon français, pour pouvoir infiltrer et déchiffrer les messageries chiffrées. Bon, sauf que voilà, c'est un serpent de mer, les Anglais ont essayé, ont y renoncé, parce que je ne comprends pas. Alors, c'est un incompétent notoire sur le domaine et c'est un politicard opportuniste sans foi ni loi. Et encore là, je suis gentil. Je suis très gentil là.
T'es méchant avec les gens sans foi ni loi même, en
Ouais,
fait. Le mettre dans cette
c'est.
catégorie-là, je... Waouh.
Donc voilà, c'est. Alors que c'est pas la pire récupération politique qu'il ait faite cette semaine, mais ça ne concerne pas notre domaine donc. On ne va pas en parler,
Ouais,
j'ai
on
pas
va
envie
pas...
de lui faire de la publicité à ce sinistre personnage.
Disons qu'on peut marcher dessus, ça porte
Ça
bonheur.
porte bonheur, oui.
Non, et donc... on peut-être faire le 120... Unième rappel de l'année sur les portes dérobées dans les messageries chiffrées,
Oui,
hein, pour le
effectivement.
rappel
Alors.
nécessaire. Il y a deux types de chiffrement, enfin il y a trois types de messageries. Il y a les messageries qui sont pas du tout chiffrées, ça n'existe plus. Voilà, fin. Les messageries chiffrées où c'est les communications entre vous et le serveur qui sont chiffrées. Donc auquel cas, ben, le serveur lui, ben, il a accès à tout le contenu de la conversation. C'est normal puisque ben, vous avez chiffré le tuyau entre vous et le serveur, mais au bout du tuyau, le message il réapparaît en clair. On va dire que ça, c'est l'équivalent d'envoyer un courrier par la poste. Effectivement, votre courrier par la poste, la poste n'a pas ouvert le cou le enfin la poste, c'est le tuyau, on va dire, et ils n'ont pas ouvert l'enveloppe. L'enveloppe, elle est toujours cachetée. Et l'étape suivante, c'est le message chiffré de bout en bout, c'est-à-dire que seul vous et votre correspondant peuvent déchiffrer le message. Et c'est mathématique, le système. Ce système, c'est pas oui. Le fournisseur de messagerie, c'est juste qu'il regarde pas le contenu. Non, c'est que mathématiquement, tel que c'est conçu, il n'y a pas de possibilité pour lire le message, sauf à s'appeler je sais pas qui dans le monde et
Gérard
avoir
Majeur.
cassé tous les systèmes, enfin le cœur de tous les systèmes de protection des réseaux bancaires notamment et autres, quoi. Il y a autrement plus intéressant que des conversations, même entre deux terroristes, si on a réussi à casser les fondements du chiffrement moderne. On est vraiment. Ça peut être critique à ce point-là. Après, peut-être que c'est mal
Et
implémenté,
tu sais,
mais.
cette personne s'en fiche, hein, c'est juste
Tout à
pour
fait. C'est
faire
juste
parler.
pour faire parler de lui et pour faire monter l'extrême droite. Comme d'habitude.
Bah, c'est lui l'extrême droite.
Oui?
C'est pour le faire monter lui-même. Mais bref.
Exactement. Voilà.
On va continuer avec la modération qui. Je
La
dirais.
modération qui est modérée.
Ouais, qui modération. La modération, la modération, bonne expression, Pierre. Au moment où c'est quand même pas le plus opportun. C'est déjà pas opportun en temps normal, mais avec les événements actuels, c'est encore pire. C'est Google. Qui
Oui.
a décidé que c'était le bon tempo pour réduire ses effectifs concernant Google News.
Exactement, ils ont injecté 40 à 5, 40 à 45 personnes comme ça, c'est parce qu'ils disent oui, les actualités, c'est on investit énormément dedans, c'est très important d'avoir un écosystème vivant autour de tout ça, c'est des investissements de long terme pour nous. On a juste fait quelques réorganisations, quelques changements internes. Voilà, un petit nombre de salariés a été impacté. Voilà. Mais donc, sinon, vous êtes au courant qu'il y a donc une guerre en Ukraine, il y a eu des attentats en Europe, il y a une guerre en cours en Israël, à Moyen-Orient, on doit dire, je crois. Vous êtes au courant que ça, c'est un peu chaud niveau actualité en ce moment et c'est peut-être vraiment pas le moment de réduire vos équipes. Mais Après, Google, honnêtement, ils ont déjà fait plus de 12 000 licenciements rien qu'en janvier. 40, 50 de plus, c'est de la broutille. Mais c'est juste que le fait que ce soit ciblé sur Google News, c'est quand même assez sympa. Ça montre à quel point, ouais, on
se préoccupe. Et d'autant plus que les élections législatives en Slovaquie ont été aussi fortement concernées par des vagues de désinformation russe.
Non.
Aussi.
Non.
Oui.
Ah bah ça. Incroyable. La désinformation russe en ce moment. Waouh.
Allez, quelques petites bonnes nouvelles.
Catégorie-là, les bonnes nouvelles,
on prend ce qu'on a, je suis désolé, ouais. C'est l'état du monde, c'est quand même assez pénible de regarder les informations.
Ah ouais, si, dans le lot, il y a des bonnes nouvelles.
Mais oui, j'irai pas jusqu'à dire que ça vous donnera du baume au cœur, mais Meta permettra de refuser le flicage intersite pour les utilisateurs d'Instagram.
Voilà,
c'est mieux que rien.
Donc maintenant,
on en a deux, des bonnes nouvelles.
Vous pourrez. Alors par contre, n'utilisant pas ces plateformes-là, je ne sais pas du tout sous quelle forme ça se présente, mais voilà, on pourra demander à ce que Instagram ne collecte plus les données entre différents sites. C'est-à-dire que si vous avez. Alors là, je vois sur la capture d'écran des exemples avec des Airbnb, des Spotify et autres, où effectivement il y a peut-être des intégrations avec Instagram, et bien vous pourrez demander à ce que Instagram ne vous suive pas sur ces plateformes-là. Merci la loi européenne qui les oblige à faire ça, mais il me semble que la loi européenne dit que ça doit être désactivé par défaut. Donc ils sont peut-être pas encore dans les clous, les mecs. Parce que si on peut le désactiver, ça veut dire que c'est peut-être encore activé par défaut.
Bon, pas une bonne solution. Ils deviennent moins mauvais.
Oui, oui, c'est bien. Tiens, c'est moins pire.
Et Microsoft qui demandera l'accord de l'utilisateur pour le partage de données entre Windows et les services Microsoft, mais en Europe.
Exactement. Alors, ça fait partie d'un ensemble, on en a déjà parlé, il y a eu au moins une émission de cette saison où on en a parlé, peut-être même déjà deux, où Microsoft commence à devoir faire des divergences entre Windows en Europe et Windows reste du monde sur des aspects de vie privée. Et donc là, aujourd'hui, dans l'espace économique européen, Microsoft devra demander l'accord de l'utilisateur pour l'utilisation de données récupérées par Windows, enfin le partage de données récupérées par Windows et d'autres services avec inscription de Microsoft. Et donc, il y aura des fonctionnalités qui vont demander l'accord. Par exemple, certaines... Sans l'accord, il y a des fonctionnalités qui ne seront pas disponibles, évidemment. Notamment, alors, certaines recommandations dans le menu recommandations de... Enfin, dans le menu démarrer, dans recommandations... Alors, je ne vois pas ce que ça peut recommander.
Moi, j'appelle ça plutôt un cadeau.
Moi j'appelle ça une bonne nouvelle.
Ouais, parce que recommandations, en général, c'est quand même plutôt de la pub, non?
Non.
C'est moi qui suis mauvaise langue,
ouais,
tu penses?
Non, arrête. C'est juste qu'on a vendu tes informations à des tiers qui pensent que dans ton bien, il serait intéressant que tu achètes ce nouvel aspirateur. Voilà. C'est pas de la pub. C'est pour ton bien. Grande nuance. Allez, une demi-bonne nouvelle encore. Avant qu'on passe à la pub.
Alors, si c'est celle que je pense, c'est pas spécialement une bonne nouvelle, mais.
Ben quoi? Bon. Les assureurs qui sont pas contents de pouvoir...
Le fait que les assureurs soient pas contents, oui, c'est une bonne nouvelle.
Voilà,
là-dessus, je suis d'accord.
C'est une bonne nouvelle, donc je trouve que c'est bien, justement, de le dire. Donc,
C'est-à-dire qu'ils essayent encore, ce qui n'est pas spécialement une bonne nouvelle.
Oui, certes.
Et qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Non, mais on peut espérer. Donc, les assureurs ont leur propre groupe de lobbying, évidemment, hein, comme beaucoup de gens. Hein, je rappelle que même le logiciel libre a son propre lobbying.
Les premiers et peut-être même le premier assureur au monde est français.
Yay!
Axaira.
Ouais, c'est ça. Et donc, la fédération Insurance Europe regrette que aujourd'hui, la proposition de règlement établissant un espace européen de données de santé leur interdise d'accéder aux données de santé. Et ils trouvent que quand même, la Commission européenne devrait revoir le truc parce que. Les assureurs, ils ont besoin d'avoir une grande disponibilité de données anonymes pour proposer des tarifs plus abordables et de nouveaux services innovants axés sur la prévention, l'atténuation des risques et offrir une assurance pour des risques qui n'étaient pas assurables auparavant. Vous voyez, ça serait trop bien qu'ils aient accès aux données de santé pour votre bien à tous. Ne serait-ce pas un monde merveilleux?
Mais oui.
On leur ferme tellement d'opportunités. Moi, ça me fait de la peine.
Déjà que, en plus, ces gens te vendent un boîtier GPS pour voir si tu conduis bien, pour pouvoir te vendre, avec la promesse de te vendre une assurance moins chère.
C'est ça.
1984 dans votre voiture. Enfin, si vous avez une Tesla, c'est déjà le cas. Pardon, je... Excusez-moi. C'était donc la première partie des actualités. On retrouve les actualités logiciels libres. Après un premier morceau de musique, nous allons donc écouter Dragon All Stars, My Oh My. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslibre.com. C'était Dragon All Stars, My Oh My. Vous écoutez les codes avec nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler logiciel libre et de matériel.
Et matériel et libre ou presque.
Ou presque. On va parler d'IBM et du Power 11, je suppose.
Attention.
Attention, j'ai dit.
Non, tu t'es trompé. On va parler de Power tout court.
Qui est Power 11, Pierre? Bah bon, s'il vous plaît.
Ouais, mais il y a pas
faisait, que... faisait pas des pièges, monsieur Pierre, s'il vous plaît.
C'est parce que je sais pas pourquoi ils se sont mis à avoir plein d'actualités là-dessus cette semaine.
Donc, c'est un héritier du Power PC, je suppose.
Oui, tout à fait.
Équipé les Mac il y a longtemps.
Mais pas que les Mac. Saviez-vous qu'il y a eu une version d'OS 2 pour Power PC?
Savez-vous qu'il y avait un système qui s'est appelé OS 2?
Oui, voilà, ça commence à faire vraiment du très vieux, là. On va éviter de faire de l'archéologie
déjà,
informatique.
Quand on a découvert ça, c'était déjà dans la rubrique les systèmes disparus.
Moi, non.
Non? Non, t'as commencé à 5 ans, toi, ou quoi?
Oui.
Ouais, quand même.
Voilà. Ah ouais. C'est ça le problème.
Il est précoce, ce garçon. Hein.
Bref, donc, Power, quoi qu'est-ce, eh ben, il s'agit tout simplement, on en a parlé un petit peu en dégeekisation il y a 2 semaines, c'est une architecture de processeurs différente. Voilà. Ça a été conçu pour faire des machines à haute performance, d'où le nom, je crois, Power. Quelques usages célèbres, eh ben, les mainframes d'IBM, les énormes armoires à glace, les énormes systèmes, les AS400 et autres, tournent avec des processeurs Power. Il y a quelques rares personnes assez folles pour avoir des machines de travail avec des processeurs Power, on en parle après. Et exemple d'utilisation de Power, et pourquoi c'est important, en fait c'est encore important d'avoir ce genre d'architecture qui existe, le rover sur Mars tourne avec un processeur Power. Pourquoi ? Parce que les processeurs Power, ben certains, sont conçus pour résister à des environnements extrêmes, et avec des sécurités dans le processeur que les autres n'ont pas. Et donc, ça résiste aux radiations, ça résiste aux températures extrêmes de Mars. C'est intéressant d'avoir d'autres alternatives pour certains usages, en fait. Et donc, quelques actualités là-dessus, qui nous concernent un peu plus en termes de logiciels libres. On a tout d'abord eu IBM qui a commencé à publier des améliorations pour les compilateurs GCC pour de futurs processeurs. Donc en gros, ils ont annoncé plus ou moins non officiellement les processeurs Power 11. Petit problème, c'est que on ne sait pas encore ce que ça va être le Power 11, mais il y a eu un gros couac sur le Power 10. Power 8 et Power 9, c'était des processeurs qui étaient fantastiques pour le monde du logiciel libre. Parce que c'était des processeurs qui étaient conçus de A à Z par IBM. En quoi ça nous intéresse ? Le fait que ce soit par IBM, c'est pas important. Mais IBM, du coup, ils avaient absolument, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point, ils avaient pas du tout le même état d'esprit qu'un AMD, qu'un Intel, qu'un ARM, qu'un Qualcomm, qu'un Apple ou autre. Ils sont tout seuls. C'est vrai, ils sont tout seuls sur leur domaine, c'est leurs processeurs qui font pour eux. Donc, il y a des gens à qui ça fait plaisir d'avoir accès au code source des firmware et autres. Ben voilà, ben oui, ben allez-y, prenez-le, regardez-le, il n'y a pas de problème. Les processeurs sont ouverts, sont avec un code, sont sans firmware fermé, parce que, ben allez-y, on n'a rien à cacher, il n'y a pas de secret, on ne va pas avoir de concurrent qui va chercher à les exploiter pour quoi que ce soit. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ça fait que si on veut faire aujourd'hui un ordinateur de bureau performant, avec du matériel vraiment 100% libre, sans aucune ligne de code propriétaire, les Power sont la seule solution viable.
Oui, mais sauf que c'est, comme tu le dis, un usage de niche.
C'est de niche à cause du prix, hein, clairement. C'est, je ne vais pas dire à tout le monde, allez acheter un PC à 5000 balles pour faire moins de choses que ce que sur votre PC à 700€. Je suis désolé, effectivement, de ce point de vue-là, mais pour quelqu'un qui souhaite avoir un système entièrement libre, c'était intéressant. Le problème, c'est que ça s'est arrêté à Power 9. Power 10, il y a eu notamment la pandémie de Covid qui a fait qu'ils se sont retrouvés à devoir sous-traiter une partie. Et la partie sous-traitée, ben, ça fait que celle-là est bourrée de firmware propriétaire. Il n'y a donc plus de possibilité de faire un système entièrement libre. Et on ne sait pas si Power 11, ce sera mieux. Mais bonne nouvelle, et là, on tombe pleinement dans le monde du logiciel libre. Power, c'est, en fait, ça, on devrait dire Open Power, c'est une architecture processeur qui a été complètement ouverte. Et donc, il n'y a pas que IBM qui a le droit de faire des processeurs, et il y a une petite entreprise qui s'appelle Solid Silicon, dont je n'avais jamais entendu parler avant la semaine qui vient de s'écouler, dont personne n'avait entendu parler avant cette semaine, qui a annoncé, indirectement, en fait, Raptor Computing, qui fait des ordinateurs Power en disant « on fait des systèmes entièrement libres et ouverts ». Et donc, ils ont annoncé concevoir et vendre un nouveau processeur basé sur Open Power, mais du coup équivalent à un Power 10, à haute performance et entièrement libre et ouvert. J'avoue que là, pour le coup, moi, ça m'intéresse énormément parce que j'aime bien avoir un système entièrement libre et ouvert. Je n'aime pas avoir des boîtes noires. Parce qu'à chaque fois, c'est là où il y a les bugs.
Mais qu'est-ce que tu vas en faire, Pierre ?
Bah, m'en servir. Ça va être mon ordinateur personnel. Voilà.
Et
c'est tout.
Et du coup, il y a une distribution genre Debian.
Le Debian ?
Tous les paquets sont compilés pour...
Oui, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème, il y a Debian. S'il y a un logiciel qui n'est pas packagé par Debian, tu le recompiles à la mano.
Ouais, okay. Et puis s'il faut, je le patche.
C'est pas compliqué.
Mais, bah non, mais ouais. La vie, elle n'est pas compliquée. Ouais. Non, mais on est plus dans les années 90 là-dessus, c'est quand même moins compliqué d'avoir des systèmes des processeurs alternatifs. Heureusement.
5 ans, Pierre, de Serenity OS.
Tout à fait. Alors, ce projet-là, on n'en parle pas trop souvent parce que c'est pas... C'est un petit peu un projet excentrique, mais j'avoue que ça fait plaisir quand même de voir des gens se lancer dans ce genre
c'est
de projet.
C'est pas toi qui parlerais une émission sur deux d'Haïku. Pardon, désolé.
Je crois que je n'en ai pas cette fois-ci d'Haïku. Alors,
c'est bon, tu en as parlé la dernière fois.
C'est vrai. On verra dans 2 semaines, du coup, oui. Donc, Serenity OS, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un développeur qui a décidé de lutter contre la drogue. Non, vraiment, je blague pas. C'est quelqu'un qui était en traitement pour des addictions à la drogue et qui a décidé, pour s'aider, de se lancer dans la conception de A à Z d'un système d'exploitation.
C'est une thérapie comme une autre.
C'est une thérapie comme une autre. Et je trouve que c'est assez beau comme projet parce que c'est vraiment, ils sont allés très loin et ils ont été jusqu'à annoncer, ben, ils vont développer leur propre navigateur web, leur propre moteur de rendu de page web, etc. Et donc, ça mérite aussi le coup d'œil parce que, ben.
Et c'est basé sur quoi, du coup ? Yono, il y a aussi une distribution Linux.
Non, mais c'est de A à Z.
C'est-à-dire, ils écrivent leur noyau ?
Tout.
D'accord, ouais, c'est.
Tout. Ils ont tout fait de A à Z.
Ils ont pas pris genre Minix ou un truc comme ça ? Non, c'est.
Non. Non, c'est tout de A à Z.
Même et pas un BSD, quelque chose qui s'est inspiré.
Non. Donc l'interface utilisateur est inspirée de ce qui se faisait notamment dans les Windows 95, enfin Windows jusqu'à Windows 2003. Le noyau est inspiré des systèmes Unix et voilà. Et donc ça vaut le coup d'œil. Alors c'est pas utilisable au quotidien, mais je trouve que ça vaut le coup d'œil de voir aussi comment un système peut être différent. La différence, c'est bien. Juste pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'avoir ce genre de projet.
GNOME pourrait abandonner la compatibilité avec X11.
Tout à fait, ça va être un petit... De toute façon, la plupart des projets vont y passer dans les prochaines années. Après, c'est sûr que de la part de GNOME, ça fait un peu énorme comme changement, surtout à si court terme. On en parle quand même depuis quelques années, le monde de l'interface graphique sous Linux dépend d'un protocole qui s'appelle X11, protocole qui est assez âgé et qui du coup montre ses nombreuses faiblesses. Et c'est en cours de remplacement par Wayland. Et du coup le projet GNOME envisage tout simplement d'arrêter, d'ici là, dans les prochains mois, d'arrêter de supporter X11. Alors, c'est un changement qui me semble moi un peu radical et précoce, parce qu'il y a quand même encore pas mal d'usages qui ne sont pas possibles dans Wayland, mais ça montre que leur approche. L'heure du changement approche pour tout le monde.
Alors, une nouvelle assez inhabituelle de notre part, on va vous parler de la sortie de Counter-Strike 2.
Oui, ben oui.
Et pourquoi donc, Pierre ?
Et pourquoi donc ?
On parle pas de sortie de jeux vidéo non libres habituellement.
Non, tout à fait. Et puis ben là, du coup, voilà, passons à l'actualité science. Non, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans cette annonce. Ils ont annoncé, alors je vais citer la foi aux questions de Valve, l'éditeur de Counter-Strike. « Compte tenu des progrès technologiques, nous avons pris la décision difficile de ne plus prendre en charge le matériel plus ancien, y compris DirectX 9 et les systèmes d'exploitation 32 bits. » Donc pour l'explication, hein, Counter-Strike 2, c'est une évolution de Counter-Strike premier du nom.
En même temps, un PC avec un processeur 32 bits capable de faire tourner un jeu de 2023...
Ça n'existe pas. Ah, voilà. D'accord. Et DirectX 9, là aussi, on parle de technologie des années 2000. Par contre, la suite de la phrase est plus amusante. De même, nous ne prendrons plus en charge macOS. Au total, ça représente moins de 1% des joueurs actifs de Counter-Strike Global Offensive. Je crois que c'est le nom de l'opus précédent.
Avec des arguments pareils, tu sucres la version Linux.
Eh bien non. Ils ont décidé de conserver la version Linux, parce que la version Linux a plus que 1%
d'accord.
de joueurs actifs,
ah, j'aurais
apparemment.
Pas cru. Alors je sais que macOS n'est quand même pas le système préféré des gamers.
Et aussi, accessoirement, Valve, c'est eux les éditeurs de Steam, hein, c'est
oui.
la Steam Deck, et donc c'est leur propre console de jeu.
Forcément, oui.
Mais là où je trouve ça important, c'est de dire, voilà, là il y a un jeu qui était avant disponible sous, historiquement il était disponible sous Windows sur macOS, maintenant c'est disponible sous Windows et Linux. Oui. C'est si on aurait cru il y a 5 ans.
Pour avoir le 1, il fonctionne très très bien avec Wine.
Tout à fait, mais je suis sûr que même celui-là, il fonctionne très bien avec Wine, mais ils ont fait l'effort de le porter. Malgré tout le travail, tout l'investissement qu'ils ont sur Wine pour l'émulation, non, là, ils l'ont porté. Et, quand même, Alexandre, dans quelle époque vit-on, quoi? C'est... Qu'est-ce qui s'est passé? T'y aurais cru il y a 5 ans d'annoncer ça?
Déjà, un jeu pas supporté sous macOS, bon, ça a toujours été le...
Ça a toujours existé.
Ouais, voilà, c'est toujours été le point noir de macOS, c'est-à-dire leur faiblesse. Mais c'est vrai de dire que... Mais Linux, on le supporte parce qu'il y a plus de monde que sur macOS. C'est quand même... On est...
Ça, y a, ouais. Il s'est passé quelque chose, quoi. On a raté une étape.
Y a quand même un petit bruit de fond comme quoi le desktop sous Linux c'est en déclin. Bon, enfin, le desktop
tout court c'est en déclin.
C'est vrai qu'il subsiste surtout sur les usages professionnels, mais c'est un autre débat. Igalia présente son travail sur les pilotes Raspberry Pi.
Tout à fait. On va parler de Raspberry Pi, on critiquait régulièrement, je me souviens très bien, il y a quelques années, critiquait régulièrement les Raspberry Pi pour justement la fermeture au niveau des pilotes graphiques. C'était dire, oui, j'ai bien les Raspberry Pi, oui, Linux par défaut, etc., mais tout est fermé. Hein. Là, maintenant, effectivement, ça a bien changé, et là, il y a Igalia, une entreprise espagnole de mémoire, Madrigal, je crois, qui a présenté son travail sur les Raspberry Pi 5. Et donc, en fait, c'est Gaïa, ils expliquent, c'est nous qui avons développé toute la partie graphique. On l'a développé avant même la sortie du produit. Et maintenant, normalement, c'est bon, c'est prêt. Avant même la sortie, vous avez tout le nécessaire, tant Linux, tant Mesa, etc. Et vous n'êtes même pas dépendant de la fondation Raspberry Pi et d'une distribution spécifique de leur part.
Alors, tu critiquais le matériel pas très ouvert. Et donc, la question, c'est comment définir le matériel ouvert ou en anglais l'open hardware?
Et c'est compliqué! C'est très très compliqué! Alors, en 2012, il y a eu une première définition qui avait été faite, c'était dire que. Open source hardware est un mot pour désigner des artefacts tangibles, donc des machines, des périphériques ou autres objets physiques, dont le design a été rendu public de telle façon à ce que n'importe qui puisse créer, modifier, redistribuer et utiliser ces appareils. C'est une première définition. Alors, il y a un ensemble de licences qui est associé, qui ont été recommandées, etc. Et ils ont mis en place notamment un système de certification. Alors là, on retrace dans l'historique, parce que le système de certification en question a été mis en place en 2016. Ils ont aussi commencé à publier de la documentation, différents éléments, etc. Et vient l'éléphant dans la pièce qui est notamment Arduino. Arduino se vante comme étant du matériel ouvert. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le cas. Le problème, c'est que sur les dernières Arduino, c'est plus du tout le cas. Et ils continuent de mettre en avant un côté open source. Parce que là, on a un souci, par contre, c'est que la définition n'est pas très stricte. Donc ils peuvent continuer, ils peuvent jouer sur les mots encore.
Comme musique libre, art libre, autant le logiciel libre a une définition très claire. Avec les quatre libertés, autant les autres domaines où on parle d'ouverture ou du libre, c'est toujours soumis à interprétation.
Exactement. Et moi, j'ai envie de même d'aller plus loin. Est-ce que les Arduino ont jamais été réellement entièrement ouverts sans critiquer Arduino spécifiquement, là, pour le coup, est-ce que ce genre d'appareil est réellement ouvert à partir du moment où un Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte électronique sur laquelle on a mis différentes puces, dont un microcontrôleur. Qui est fabriqué par un tiers et qui, lui, est fermé. Le microcontrôleur, il a sa propre intelligence, sa propre logique. Est-ce que le fait que lui soit fermé, est-ce que ça ne justifierait pas de ne pas appeler ça matériel ouvert? C'est un peu troll, parce que je connais des arguments dans les deux sens.
Il y a une question sur le Fairphone, qui ne peut pas être complètement ouvert. Parce que,
le Fairphone ne s'est jamais vendu comme étant ouvert. Le Fairphone est vendu comme étant réparable. Attention, la nuance est très très importante.
Merci Pierre.
De toute façon, juste pour clôturer sur cet aspect-là, il est illégal d'avoir un téléphone ouvert. Désolé. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'émettre les fréquences de la 3G et de la 4G avec du matériel ouvert.
On continue avec les actualités. La troisième partie des actualités, pardon, avec un deuxième morceau de musique. Deuxième morceau de musique.
C'est dur de compter ce soir.
Un, deux, trois, écoutez. Ah, on n'apprend plus à compter en école d'ingénieur. Paul Emmanuel, même, vous écoutez les codes sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campus, lille.com.
C'est dur de parler aussi tout court.
Oui.
Je l'aime, je l'aime. Et
C'était Paul Emmanuel, même. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités. J'ai le compte. Et on va parler sécurité et une faille dans un logiciel très utilisé sous Linux, puisque c'est GNOME. Pierre, rassure-moi, c'est pas juste pour troller parce que toi, tu préfères KDE.
Ah non, c'est une vraie faille et celle-là, elle est assez critique. C'est là, ils ont fait grosse poulette. Donc c'est pour ça que j'en parle, c'est comme d'habitude, hein, que ce soit sous Linux ou sous Windows ou sous macOS, faites vos mises à jour de sécurité, je vous en prie, ne faites pas participer vos machines à différents réseaux d'arnaque ou autres, parce que c'est ce que deviennent les machines qui se font pirater comme ça en général. Donc la faille de sécurité, je vais vous épargner les détails techniques, hein, c'est une bêtise sans nom, c'est-à-dire que les gens n'ont pas pensé à un endroit qu'un nombre pouvait être négatif. Parce que c'est pas prévu que ce soit négatif, mais ils ont quand même autorisé que ce soit négatif à cet endroit-là, et plus du coup, plus loin, ben, ah ben zut, ici, ça, là, la variable, elle peut être négative, et puis, ben, si c'est négatif, ben, comme c'était pas prévu, pouf, ça fait des chocs à pic. Je résume, c'est le principe d'une faille de sécurité de ce genre. Alors, c'est même pas du dépassement d'entier, mais c'est ce qu'il y a de très sale dans cette faille, c'est que ben il suffit d'avoir un fichier au mauvais format qu'on réceptionne, enfin un fichier verrouillé, et puis ben automatiquement GNOME va essayer de générer la miniature et pouf, ça y est, il aura pu exécuter du code arbitrairement.
Ah, c'est très sale.
Ah, quand je dis que c'est sale, je blague pas. On tombe sur un gros problème Alors, ils disent que oui, normalement, il y a une protection au niveau de GNOME pour éviter que la faille ne puisse être exploitée comme ça et ne puisse sortir. Sauf que malheureusement, il se trouve que des gens ont trouvé comment sortir aussi de la protection. Et ce qui fait que la faille est vraiment critique.
C'est-à-dire potentiellement, alors, imaginons des spammers qui visent particulièrement les utilisateurs de GNOME. Bon, c'est pas le gros du contingent des spammers. Ils envoient donc un spam avec une pièce jointe et pour peu que vous l'ouvrez et que vous téléchargez la pièce jointe, potentiellement, vous pouvez exploiter la faille.
Ouais.
C'est méchant.
Ouais, c'est une méchante celle-là. Alors, ça a été corrigé heureusement, hein, mais et il y a eu des protections ajoutées pour que ben, la sandbox, donc la protection au-dessus, pour éviter qu'une faille de sécurité ne soit exploitée, il y a des protections que cette sécurité a été améliorée, mais globalement, ça illustre à nouveau plusieurs problèmes. Un, ben, faire des miniatures sur plein, enfin faire des miniatures, des analyses sur plein de formats de fichiers, c'est bien, sauf que ça veut dire plein de formats de fichiers, donc plein de bugs possibles. Deux, ben, ce genre de bug, c'est impossible à voir en relisant. Que ce soit sur du vibre ou non, là pour le coup, c'est invisible. Personne ne s'en rend compte de ça. Et finalement, on retombe sur deux choses. Un, il faut peut-être repenser de A à Z et commencer à migrer ce genre de cas vers des solutions comme Rust ou autres qui n'ont pas ce genre de faille par nature. Et deux, est-ce qu'il ne faut pas commencer à revoir aussi ce genre de fonctionnalité ? Est-ce que c'est normal que automatiquement l'environnement de bureau essaye de faire des miniatures, essaye de faire des manipulations sur des fichiers qui peuvent venir de n'importe où ?
Ouais, mais après, si les systèmes propriétaires le font, voilà, tu es obligé aussi de t'aligner sur leur ergonomie.
Oui, mais sauf à quel prix ? Voilà.
Il n'y a pas que le tracker de GNOME, il y a aussi Curl.
Tout à fait, celle-là, elle est aussi bien, bien, bien vénère. Une grosse faille de sécurité dans Curl. Curl qui est l'un des logiciels libres les plus utilisés au monde. On ne sait pas combien d'installations il y a de Curl, puisqu'ils ne s'amusent pas à compter, hein, étonnamment. Mais Curl, c'est une bibliothèque qui permet en fait de transférer des données avec des URL. Alors ça supporte pléthore de protocoles, de proxys, etc. Et il se trouve que dans l'un des proxys, il y avait un petit bug qui faisait que vous connectez à une adresse, enfin vous indiquez une URL pour un téléchargement. Si vous utilisez ce type de proxy-là, exécution de code à distance. Cadeau. Direct. Bon.
Et c'est grosse faille. Qui est couramment utilisé ?
Alors, non, c'est les proxys SOX, c'est pas ce qu'il y a de plus utilisé. Oui. Sauf que, facteur aggravant, lorsqu'on se connecte à un réseau, il y a des systèmes qui peuvent automatiquement spécifier un proxy à utiliser de préférence. Donc si vous avez ces trucs-là qui sont activés, c'est pas le cas par défaut sous Linux en tout cas, mais si vous avez ces trucs-là qui sont activés, votre appareil peut se mettre à utiliser un proxy, et derrière, s'il va sur un site malveillant, vous l'avez dans l'os.
Une manière sur la sécurité...
Attends, juste un élément quand même sur Curl, un élément assez critique tout de même. Curl a été mis à jour. Quelques jours plus tard, ils ont fait le point, il y a au moins un distributeur de Curl qui n'a pas diffusé de mise à jour. Qui est ce distributeur ? Quelle distribution de curl pourrait ne pas mettre à jour ?
Genre un Windows ?
Exactement, Microsoft intègre curl dans Windows et n'a pas diffusé les mises à jour de sécurité.
Et comme le code il n'est pas ouvert, du coup c'est plus sécurisé, on ne peut pas voir les failles.
C'est ça, c'est exactement ça. Puis quand on diffuse des composants entières, eh ben, on ne va pas les mettre à jour non plus. Bravo Microsoft.
Donc Pierre, une nouvelle version de Hohammer.
Oui, alors... 5. Alors, c'est... puisque on parle de sécurité, juste pour rappel à quel point ben, nos ordinateurs sont quand même pas conçus pour la sécurité informatique. Rohammer, qu'est-ce que c'est ? C'est une attaque qui permet en fait de modifier. En fait, la mémoire vive est écrite en ligne. Il y a plusieurs lignes de mémoire. Et en fait, on se rend compte qu'en écrivant comme des bourrins dans la ligne 1, et ben, ça finit par modifier le contenu de la ligne 2. Par différents effets physiques. Et donc là, on a découvert une nouvelle faille qui permet d'exploiter encore plus ce genre de méthode pour aller attaquer des éléments en mémoire. Alors, ça ne va pas concerner, normalement, l'utilisateur lambda, parce que personne ne va s'amuser à utiliser une telle attaque contre un utilisateur lambda. Une attaque ciblée avec Rohammer, ça n'existe pas, parce que c'est trop compliqué. Mais je trouve que ça illustre encore à quel point le matériel informatique est assez... pourri, en particulier pour les particuliers, puisqu'on n'a aucun système de contrôle d'intégrité de la mémoire. C'était très courant dans les années 80. C'est courant sur le matériel professionnel, mais pour les particuliers, on s'en fout. Vaut mieux avoir 5 FPS de plus au dernier jeu vidéo et avoir du coup des trucs qui vont un peu plus vite.
Comme tu disais, Pierre, mais à quel prix ?
À quel prix ? Et pourtant, ça coûte pas si cher que ça le matériel, mais Intel a décidé que c'est réservé aux professionnels. Rajouter un zéro.
Merci Pierre, c'était l'actualité des deux semaines écoulées. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la dégeekalisation. Mais avant ça, on va écouter un troisième morceau de musique. Nous allons donc écouter Forget the Whale, Empires of South Dakota. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Forget the Well, Vampires of South Dakota. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Et Pierre, tu vas encore parler d'une autre faille de sécurité, une faille dans la l'IPC. Alors ça vous paraît abscon comme ça, mais c'est la librairie de base d'un système Linux.
D'un système Unix.
Unix même.
Oui, même, on peut aller jusque-là. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, commençons par rappeler ce qu'est la libc, et donc là, en l'occurrence, la glibc. Le système d'exploitation, c'est un noyau qui discute avec le matériel et qui expose ce qu'on appelle des appels système. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire au noyau « ouvre le fichier tel chemin et, avec le paramètre 58 ». Et le noyau fait « Ok, alors ce paramètre, ça veut dire qu'il faut que je l'ouvre en lecture, et s'il n'existe pas, que je fasse tel truc, etc. » Et il renvoie un nombre, et puis derrière, c'est « Ok, lis le fichier 5, je veux lire 5 octets, et ça, etc. » Voilà. C'est extrêmement primitif. La norme POSIX, la norme des systèmes Unix, donc qui est faite autour du langage de programmation C, elle est un peu plus évoluée que ce qu'on implémenterait à cet endroit-là. Et du coup, on a tous les systèmes, tous les Unix, disposent d'une libc, la bibliothèque, qui expose les fonctionnalités de base du langage C en les implémentant par-dessus le noyau. Voilà ce qu'est la libc. La glibc, c'est la libc du projet GNU. Il y en existe quelques autres qui tournent sous Linux, mais c'est vrai que tous les Android utilisent autre chose que la GNU libc, parce que, la GPL, c'est pas bien. Voilà, je résume le point de vue de la Silicon Valley. On pourra en reparler. Ce sera dans une prochaine émission, je crois. On a de l'actualité sur ça. Bref, la glibc est la principale utilisée sous Linux. La majorité des PC, 100% quasiment des ordinateurs personnels sous Linux utilisent la glibc. Et pareil pour les serveurs. Le problème, c'est que c'est un énorme morceau de code, parce qu'il y a énormément de choses à mettre dedans, il y a énormément de contraintes, et notamment pour tout ce qui est performance, il y a beaucoup de choses qui sont à définir dedans. Et en 2021, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, en 2021, une fonctionnalité a été introduite pour rendre certaines choses configurables, par rapport à des problématiques de performance notamment. Et il se trouve qu'on a découvert, très récemment, la tuile, on s'est rendu compte que la fonctionnalité en question a été mal implémentée. Et donc, il y a un dépassement de mémoire tampon qui est présent sur cette fonctionnalité. Alors, il y a deux aspects là-dedans. Donc, je vais en venir. Déjà, je vais dire pourquoi la faille est vraiment si grave, parce que là, je cite des titres, une faille dans la bibliothèque C donne accès aux routes sous Linux. Ces titres sont faux. Je suis désolé, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Je déteste ces titres parce qu'ils sont pas techniquement corrects. La faille dans la libc permet d'exécuter du code arbitrairement dans le contexte du programme qui a été lancé. C'est-à-dire que sous Linux et sous le système Unix, lorsqu'on veut devenir root, on ne dit pas au système « Bonjour, je voudrais être root, s'il vous plaît. » Ça n'existe pas. Comment qu'on fait, Alexandre, pour devenir root sous Linux ? Comment qu'on fait ?
On utilise soit on demande une élévation de privilège, soit...
Comment on demande une élévation de privilège ? Il y a un appel système pour ça ?
Une commande.
Oui, on lance une commande. Et c'est là le piège. Et c'est de là que certains disent « Oui, et la faille donne l'accès à root. » En fait, on lance un programme, sudo ou autre, qui, lui, a un marqueur spécial. Sur le disque dur, sur le système de fichiers, il y a un marqueur pour dire ce programme-là, quand il se lance, il doit se lancer en tant que administrateur système. Il doit se lancer en tant que machin. Et c'est ce programme-là, du coup, le problème, c'est que la libc, elle intervient avant même le démarrage du programme, mais elle intervient déjà alors que le système est passé en administrateur pour lancer le programme. Et c'est là où la faille est exploitée pour exécuter arbitrairement du code sur le système. À partir du moment où tu peux lancer sudo, même si sudo derrière il va te dire non, t'as pas le droit, le problème c'est que tu as pu lancer l'exécutable sudo, il est présent sur le disque, et au lancement de l'exécutable, la faille est exploitable. Donc dire la faille donne accès au root, c'est un peu compliqué.
Ouais, mais c'est-à-dire, tu peux faire un sudo ou la commande que tu veux, même si la commande n'est pas dans les sudoers, tu peux exploiter la faille.
Tout à fait.
Ouais,
c'est compliqué. En fait, la faille, la libc elle-même ne donne pas l'accès root. C'est la combinaison entre deux éléments, la libc et un élément pour devenir root. Maintenant, on va reculer quelques pas. Et je vais juste rappeler un fondamental en sécurité informatique en ce qui concerne nos auditeurs habituels des particuliers. Parce que là, cette faille-là, elle est très très grave, en particulier pour des systèmes avec plusieurs utilisateurs, des systèmes à utilisation partagée, ou des serveurs. Mais pour toi et moi, Alexandre, sur nos ordinateurs, cette faille, on s'en fout. C'est pour ça aussi que je suis choqué à chaque fois de voir que ce genre de faille, on en parle dans des tas de... sur du Next Impact, par exemple.
On s'en fout si l'utilisateur, c'est de toute manière l'administrateur de la machine.
Même pas que ça. Je t'avoue que sur mon ordinateur, si on me dit quelqu'un peut lancer une commande et devenir root. Moi, j'ai envie de dire, mais comment ça, quelqu'un peut lancer une commande? Et c'est là où j'aimerais bien qu'on prenne qu'on recule un petit peu quand on a ce genre de faille. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pour un utilisateur lambda, cette faille-là n'est pas grave. Par contre, si quelqu'un aujourd'hui pouvait dire « je peux lancer du code arbitrairement à distance sur votre ordinateur », là, ça, c'est une vraie faille grave. Je peux exécuter des commandes à distance parce que ce qui me concerne, et ce qui concerne quasiment tous les utilisateurs d'un ordinateur, c'est pas leur système d'exploitation, c'est leurs données. Et les données, elles sont protégées, pas tant que ça.
Elles sont pas protégées de grand chose.
Elles sont pas protégées de grand chose, mais même contre vous-même, elles ne sont pas protégées, vos données. Et vos données, elles sont rarement protégées entre les différentes applications qui tournent. Donc, j'ai envie de dire, cette faille-là, moi, je m'en préoccupe pas. La faille curl, par contre, elle est un peu plus importante pour un utilisateur lambda. Une faille, je sais pas s'il y avait une faille dans GNOME qui permettrait d'exécuter du code à distance, ce serait carrément plus grave. Mais voilà, ça n'existe pas, une faille comme ça, voyons. Bien connu. Et je voudrais juste qu'on recule, qu'on se calme. Voilà, quand il y a une faille comme ça, c'est grave, mais c'est surtout grave pour les serveurs, pour les administrateurs de gros systèmes, pour les particuliers, c'est pas critique. C'est la différence aussi à voir avec le fonctionnement qu'il y a eu sous Windows, et notamment toutes les failles de sécurité de Windows des années 2000 qui lui ont donné sa fantastique réputation. À l'époque, les failles de sécurité, c'était quand même au point que si vous branchiez un ordinateur Windows XP avant le service pack 3, je crois, vous le branchiez directement sur Internet, au bout de 30 secondes, l'ordinateur était terminé. Le système d'exploitation était verrouillé jusqu'à la moelle, vous étiez bon pour une réinstallation. Je le sais, j'ai eu à le faire parce que je savais pas que les Freebox étaient en bridge. On apprend.
Mais donc, on dit que le NAT, c'est pas une sécurité.
Firewall, c'est une sécurité. Le NAT est une fonctionnalité du firewall.
Je vais troller.
Mais donc, il faut pas s'inquiéter de ces failles-là, il faut s'inquiéter de failles qui donnent accès à votre machine. Il faut s'inquiéter de à qui vous donnez accès à votre machine tout court.
Merci Pierre pour cette dégicalisation instructive, comme à chaque fois. Un petit point sur l'agenda. Donc mardi qui vient tout de suite, si vous écoutez en direct ou si vous écoutez dimanche ou lundi, voire mardi dans la journée, c'est donc la permanence du dernier mardi de chaque mois organisée par l'association Ch'tiNUX à partir de 20h et comme d'habitude, comme depuis 15 ans maintenant. C'est au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. Vous pouvez discuter, logiciel libre, venir parler de vos problématiques, parler de ce que vous voulez sur le logiciel libre, demander de l'aide, tout simplement, voir des libristes.
Dans leur élément naturel.
le tout autour de boissons bio et équitables. Également, une install party aura lieu donc le mardi qui suivant, donc le mardi 7 novembre, à partir de 19h jusqu'à 22h. Ce sera donc aux petites cantines Place des Martyrs à Croix, donc entre Lille et Roubaix, donc c'est organisé par Célix. C'était le 260e numéro de l'Écho des Gnous. Dans deux semaines, on se retrouve pour l'Écho des Gnous 261. Nous serons le dimanche 5 novembre de 19h à 20h, comme d'habitude. EchoDesGnous.org si vous voulez écouter le podcast. Dans une semaine, rendez-vous avec le jazz. Et tout de suite, c'est Chupa Pimento. Au revoir à tous. Bonne fin de week-end.
Bye bye.
Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glous.